Bonsoir, merci d'écouter Fréquence Mistral. Vous êtes dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Au premier jour du monde, nous étions tous ensemble dans l'arbre. Le soir, avec les autres créatures, nous mangions le soleil en écoutant le chant de la terre. Nous, les humains, nous ne séparions pas l'antilope et la fleur de l'homme. Nous étions d'évidence les enfants du rêve. Nous connaissions notre rocher et l'arbre florissant parcouru de champs, ce prodigieux frère. 10 000 oiseaux sautaient dans ses ramures et becquetaient sa parole. Ils puisaient les contes à la source et au creux des pierres pour les emporter et nous accompagner. Nous ne savions pas que nous allions abandonner la sérénité de l'arbre et du rocher, nous désunir de l'antilope et de la fleur, et pour tout dire, nous égarer. Nous ignorions qu'un jour, nous penserions la terre inerte et ne sentirions plus l'âme du monde. Les oiseaux, eux, le pressentaient. Créés pour veiller sur nos premières images, ces enchanteurs protégeraient le songe primordial des génies. Leurs contes résisteraient à tout, à la séparation, au temps et à l'oubli. Ils sauraient murmurer notre parenté, uniraient nos pouls au cœur des arbres et des pierres. Ils nous escorteraient dans un monde dénaturé pour nous protéger du tumulte et de l'ignorance, continuant de gazouiller et de rire devant la peur et l'avidité. Quand les conséquences de notre fugue deviendraient insoutenables, leur magie nutritive et vitale nous encouragerait à agir pour renaître. Ayant lâché nos chimères, déliés et réunifiés par la parole enamourée, nous serions à nouveau nus sous les étoiles, joyeux de tutoyer la source et de dialoguer avec elle. Certains de ce pressentiment, les oiseaux au bec garni de contes étaient prêts pour le grand voyage. Ils se rassemblèrent. « Emmenons au loin nos remèdes, dit le oiseau, car nos petits frères humains, qui veulent tout connaître, sont en train de s'éloigner, de s'endormir, d'oublier. Portons haut et loin la chanson des pierres et de l'aubier, allons abreuver contre vents et marées le temps du rêve. S'ils butent et tombent, qu'un conte soit là pour les relever, la parole d'un être ou celle d'une montagne. Qu'à chaque fois que la soif ou la faim tenaille, un bec libère son eau et ses graines. » Le souffle d'une gemme ou la voix d'un peuplier. Compagnons, déployez vos ailes. Ô mes bavards, planez sur la terre et soyez des fontaines. Que vos paroles médecines accompagnent le murmure du monde. Et des myriades s'envolèrent, joyeuses, sur les routes du temps avec leurs trésors, sous le regard du oiseau phénix, le maître des renaissances. Ainsi, ces contes sont-ils venus à nous pour nous réveiller ?
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal. Quand elle a commencé si bien, on imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne-t-on donc contre mon dos? Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
L'enfant s'assit dans le tipi du vieil indien et montra ce qu'il avait découvert sur la colline. Cette pierre n'était pas comme les autres. Il l'avait entendue chanter. Bien qu'il eût 7 ans, sur un nuage attendait avec solennité le verdict du sage. Ours qui boit sourit devant sa gravité. Sortit sa pipe du sac médecine en peau de caribou et déroula les étoffes contenant le tuyau et le fourneau. Le vieillard aux cheveux de neige les assembla, introduisit du tabac et des herbes. Sans un mot, allumant la pipe, il signifia à l'enfant qu'il avait rapporté Tonka, la pierre sacrée. Le vieil homme murmura en rejetant des volutes de fumée, puis tendit le calumet au garçon. C'était un grand honneur. Vois-tu sur un nuage, les êtres pierres voyagent sur le dos du grand mystère. Ils cheminent avec Wakantanka, le grand esprit. Ces cailloux ont du pouvoir. Ils connaissent des choses qu'ils viennent chanter. Le fourneau du calumet a été apporté à notre peuple par la jeune fille Bison Blanc qui nous a offert Inyan, le rocher rond et rouge d'où viennent nos pipes. Jadis, des chasseurs se servaient de pierres comme celle-là pour les questionner et apercevoir les hordes de bisons. Pour certaines de nos cérémonies, nous nous servons des tout petits cailloux consacrés par les fourmis. Les petits cailloux aussi savent chanter, tout comme les pierres grand-mères chauffées au feu sacré de la loge que nous arrosons d'eau et de cèdre pour suer et nous purifier. Un jour, une jeune fille de notre tribu trouva elle aussi Tonka. Comme elle portait du bois, elle mit la pierre dans sa bouche, mais trébucha et l'avala. Bientôt, son ventre s'arrondit et elle mit au monde Inyanoxi, l'enfant né de la pierre, celui qui a conçu la cérémonie de la loge de sudation. Tonka partage le silence du grand esprit. Elle parle en sa présence. Tu es réceptif au message, elle t'a choisi. Quand un être pierre sort de terre, c'est qu'il ne veut pas rester seul et qu'il a trouvé un porteur. Aucun sage ne pourrait le déterrer s'il ne venait à lui. La pierre m'a choisi, grand-père ? Oui, mon garçon. Elle est venue effleurer le sol et chanter pour que tu me la portes et que je te conte l'histoire du porteur de pierre pour que tu saches comment vivre à ses côtés. Jadis, le grand esprit a enfoui des pépites, des cailloux et des rochers dans la terre pour attirer la force de l'éclair et du tonnerre. Parfois, le grand mystère cherche un être humain, alors l'être pierre rejoint la surface et appelle. Un jour, il y a longtemps, un Indien allait dans les collines quand il entendit chanter. C'était une voix pure, comme de l'eau, qui sort d'un rocher. Il se tourna de tous côtés sans rien voir d'autre qu'une petite pierre ronde. Dès qu'il l'eut prise, il comprit la parole de toutes les choses rondes. Le soleil, la lune et la roue médecine, ce cercle de pierres sacrées où se tient notre peuple. Il entendit la voix de l'œil, du nombril, de la gourde et de la crécelle, saisit celle du tambour, tout cela grâce à la pierre. « Eh, je rêve !» pensa-t-il. Mais comme il ne se réveillait pas, lorsqu'elle lui murmura « Viens !», il la suivit. « Où ça, grand-père ?» reprit l'enfant. « Chez Garçon Lapin qui l'accueillit avec sa joie coutumière. »« Garçon Lapin ?»« Oui. L'Indien qu'on peut couper en morceaux et qui ressuscite. Le filou qui a nommé les plantes et les animaux. Celui qui est bizarre et qui initie les curieux dans ton genre. Garçon Lapin a donc pris le porteur par la main. Il lui a remis une chemise en peau de daim écarlate, décorée de piquants de porc-épic. L'œil coquin, il a averti sa femme qu'il sera absent 3 jours, et sur ce, ils sont partis. En chemin, il a demandé au jeune homme de choisir un endroit pour dormir. Il savait ce qui allait se passer. La pierre a chanté « Non, pas là, va plus haut, ici vit un ennemi. » L'Indien a entendu, ils sont montés. Plus tard, Garçon Lapin l'a mené au bord de la falaise qui surplombe le canyon. La pierre a chanté « Serre-toi de l'arc-en-ciel, traverse. » L'Indien a écouté, ils ont traversé. Après ça, Garçon Lapin s'est foulé la cheville, exprès, puis il a ligoté son compagnon. La pierre a chanté « Libère-toi, soigne-le. » Le jeune homme a compris, s'est libéré, a cueilli des herbes, a fait un onguent, a guéri Garçon Lapin. Garçon Lapin guéri et satisfait des progrès de son apprenti est reparti en gambadant, a pris son arc, tiré une flèche. À peine plantée, elle est devenue un peuplier frémissant. Par ce prodige, il voulait lui montrer que toute intention soutenue atteignait sa cible. Sur le chemin du retour, ils ont bravé une nuit de charbon. La pierre a chanté « Tu peux voir dans la nuit ». Et l'Indien a cru Tunka. Il a trottiné. Ils ont retrouvé le tipi, la femme de Garçon Lapin les a accueillis gaiement. Et le plus drôle est à venir. À l'aube, un guerrier hirsute est entré, accompagné d'un squelette, d'une femme qui tousse et d'un aveugle. Ces 4-là avaient besoin d'un bon guérisseur. Garçon Lapin demanda à l'Indien de les soigner. Ce fut une belle cérémonie. C'est tout, grand-père ? C'est tout. Rien qu'une petite pierre ronde qui chante Tunka. Tu l'as ramassée. Quand tu entendras la parole mystère des choses rondes dans sa voix, tu penseras « Eh, je rêve !» Puis, bien réveillé, quand elle te dira « Suis-moi », tu la suivras. Mitakouye Oyasin, Tunka t'appelle. Hé, tous les miens, ma parenté. Va, ma fourmi, va, mon brin d'herbe. Soulève tes racines, mon saule. Suis-moi, mon porteur de pierre. Nous allons pour guérir le monde.
Pathologique, nous sommes un cas anachronique. Nous avons bien trop tardé à faire nous aussi du sud-américain. Nous avons bien trop tardé à grossir les rangs de tous les faux indiens. Quand on fait de la musique, faut avoir l'esprit pratique. Il faut savoir exploiter le goût immodéré des gens pour l'exotique. Surtout pas se mettre en tête originalité et authenticité. Aïe, 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 aïe. Voilà les grands mots lâchés. Aïe, 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 aïe. Si on fait dans les idées, on va sûrement être exclu de la fraternité des chanteurs à succès. À la place d'un tas de dollars, on va tout juste avoir sifflets et colibets. Un corps pathologique, nous sommes un corps, nous sommes un corps. Un corps anachronique, la musique des Indiens ou celle des Mexicains ou celle des Colombiens. Ça nous dit seulement misère, sécheresse de la terre, pouvoir des militaires. Peuples écartelés, villages abandonnés, bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés. Et les prisons infernales où sévissent torture, carnage et pourriture. Aïe, 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 aïe. C'est pas ça qu'il faudrait dire. Aïe, 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 aïe. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas réussir à faire la chanson qui donne envie de partir. La chanson publicitaire pour remplir les charters de joyeux vacanciers. Pathologique, nous sommes un corps, nous sommes un corps anachronique. À travers cette chanson complètement débile où notre esprit fragile s'est donné du bon temps, voulait simplement dire salut en passant aux peuples écartelés, aux villages abandonnés, aux bidonvilles surpeuplées avec plein d'enfants bien sous-alimentés et aux prisons infernales où sévissent torture, carnage et pourriture.
Au temps où les arbres marchaient sur la terre, qu'ils soulevaient leurs robes de racines et allaient parlant de vieux langage, eut lieu une grande assemblée boisée. Éveillés autrefois par des elfes habiles et généreux, les arbres se réunirent avec ferveur au grand soleil d'une clairière moussue, se proposant comme parrains et marraines des êtres humains. Les premiers bébés étaient en train de naître, portés par des corolles tombées du ciel. Assis en tailleur ou à genoux, bras branches dessus-dessous, amicaux comme ils le sont, les géants riaient. Le cercle fraternel parcouru d'abeilles et de papillons se présentait tel un joyeux chantier où chacun allait offrir aux nouveaux venus un don. Comme c'était la lune de l'aulne, le jour entre la fin de la lune vieille et le début de la suivante, le roi de l'hiver ouvrit la séance. L'ancêtre connaissait le secret du feu et celui de la vie après la mort. Pieds nus dans l'eau fraîche, la voix claire, il commença. Ces êtres vont aller et venir sur la peau de la terre, monter au ciel, redescendre, toujours plus nombreux. Puisqu'ils sont nos petits frères, que chacun de vous leur offre une ou plusieurs qualités uniques et indispensables. Au moment venu, je leur donnerai le feu. Ils auront besoin de la beauté, qu'elle les touche, dit le bouleau. Elle est à eux. Force et connaissance, tonna le chêne. J'offre paix et douceur, fit l'olivier. Les branches se levaient comme des mains d'écoliers sous l'œil encourageant du soleil. Qu'ils soient mâles et aussi femelles, chanta le noisetier. Qu'ils aient du plaisir à l'entraide, fit le sorbier. Une bonne intelligence avec la terre, ajouta le noyer. Et ainsi la journée durant, les dons se multiplièrent. La droiture et le courage, cadeau de l'érable. L'élévation, celui du mélèze. Puis la délicatesse du figuier, l'amour du cèdre, l'unité du pommier, la liberté du frêne, la justesse et la tolérance du charme, la noblesse du châtaignier. Enfin, le saule accorda la fluidité, le sapin diffusa la sagesse des plantes, l'art du soin par les eaux florales et les huiles, la myrrhe et l'encens, et le tilleul fit don aux êtres humains de l'art de rêver. Dans le silence, avant que le cercle ne se rompe dans la paix du soir, le être prit la parole, tandis qu'apparaissaient les premières étoiles. Je donne la persévérance et la confiance dans le jaillissement de la vie. Frères et sœurs boisés, nous sommes liés à tout jamais aux jeunes créatures. Même fibres, même charpentes, nous échangerons nos souffles. Le temps est venu d'aller nous planter en terre, d'être des guides, des signaux vivants de leur propre essor. Désormais, nous communiquerons entre nous par la voix des racines et de la canopée. Ceux qui ont des oreilles nous entendront. Et s'ils perdaient nos vertus, s'inquiéta l'orme. Nous souffririons, répondit le platane, mais ils liraient sur nos écorces altérées l'origine du mal qui les ronge. En rectifiant, ils nous guériraient. Nous sommes liés, notre propre nature est en eux. Nos fibres sont nattées de patience, conclut le néflier. Ce que nous leur donnons, ici, trouvera son chemin.
Il y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans la petite voie de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans la petite voie de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupons volent et s'envolent nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps à l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, remontez l'arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Y a un arbre, pigeon vole.
Le jeune téméraire venait d'errer 3 jours à la recherche de l'arbre grand-père. Les indices concédés par l'homme médecine des Kiowa Apaches étaient obscurs. Serre qui boite, c'était son nom, finit par s'asseoir. Il apaisa son esprit fougueux, chercha l'accord avec la montagne et toute vie. Quand il rouvrit les yeux, un pivert le frôla. Il le suivit et aperçut le grand cèdre rouge dont il espérait rencontrer l'esprit. Serkiboite frémit devant la nature. Il allait implorer en présence de la grande assemblée des parents, devant les êtres surnaturels du peuple de la montagne, les ailés, les considérables rochers, les quatre pattes, les étoiles, la lune, le soleil, le torrent. Il savait que lorsque l'être humain invoque toutes ses relations, il pénètre dans un espace sacré. Après avoir remercié sa parenté, il ôta ses mocassins et sa tunique, s'adressa au grand cèdre rouge. Je veux apprendre à fabriquer de bons arcs. L'ancien de mon clan accepte de m'enseigner, mais seulement si tu y consens. Grand-père, je vais monter m'asseoir sur l'une de tes branches. J'attendrai le temps qu'il faut pour que tu me parles, sans boire ni manger. Le garçon s'installa sur une grosse branche écarlate, les jambes de chaque côté, la poitrine face au tronc. Il sortit son sac médecine et commença à mâcher la gomme et les graines que lui avait donné le sage. Il entonna un chant offert aux Kiowa Apache par les Gaan, les esprits de la montagne. Les braves qui marchent sur moi sautent par-dessus les arbres. Oh oh, ils regardent le sommet. Le premier soleil fut long. La faim le tenaillait et la soif lui prenait la langue. La gomme et les graines avaient allumé en lui un feu. Dans la nuit fraîche et noire, un coyote hurla. les braves sautent par-dessus les arbres. Au deuxième soleil, il lutta contre les crampes et les hauts le cœur, manqua de glisser et finit par s'attacher. Au soir, un pâle filet de lune accompagna ses rêves. Puis, il alterna assoupissement et tressaillement. Il marche sur moi. Le troisième matin, le ciel se chargea de gros nuages et le vent se leva, amenant la pluie. Seul dans le brouillard, il ne voyait plus ni le sol, ni les autres branches de l'arbre. Oh, oh, il regarde le sommet. La corde rongeait son dos. Seules les plantes médicinales avaient raison de sa terrible soif qu'un début de fièvre avait aggravée. La nuit tomba, doucereuse, remplie d'ululements lugubres, habitée par des ombres menaçantes et des songes hallucinés. Les braves marchent. Les esprits lui parlaient dans des langues scellées. Un pivert, grand comme un homme, piquetait son corps. Des fourmis chantaient. Sous un ciel sans étoiles, il sentit ses os devenir du bois, son sang de la sève et sa peau se tendit comme celle d'un tambour. Il marchait avec les gahanes et sa vision le posa devant une caverne. « Entre, cerf qui boite !» fit une voix profonde. Dans la pénombre dansait un feu odorant. Un géant assis brûlait un morceau de résine. Il était rouge, avait le corps couvert d'écorce, d'aiguilles et de mousse, de cônes et d'écailles spiralées. Il ressemblait à la fois à un arbre et à un indien. Sa respiration soulevait les brindilles et attisait le feu. Sur sa tête, un pivert jouait avec les turquoises de ses cheveux. « Tu es plus têtu qu'une racine. Pourquoi veux-tu faire des arcs ?»« Je veux nourrir les miens, ma grand-mère, ma petite sœur. Je veux rapporter du gibier pour ma tribu, faire cesser les pleurs de ceux qui ont faim. »« C'est bien. Je te connais. Tu as offert 4 jours de ta propre chair. Tu as chanté et prié. Tu as témoigné du respect pour toute chose. » « Tu es mon fils !» Alors le colosse souffla sur la résine brûlante. Les gahanes se mirent à chanter et le garçon à trembler. Il était maintenant un être de pluie et de nuages, de terre et d'éclairs dorés. Ses coudes, ses genoux se couvrirent de coquillages, sa chair de fibres de bois. Il ne fut plus qu'un seul avec les grandes montagnes, un seul avec les considérables rochers, un seul avec l'arc tonnerre. Cerf qui boite s'éveilla enlacé au tronc. C'était l'aube. Grand-père avait parlé. Il remercia son parent, sauta à terre, alla boire au torrent et cueillit des baies. Après quoi, il marcha vers sa vie d'artisan, de chasseur et d'homme en murmurant à pas feutrés. Les braves qui marchent sur moi sautent par-dessus les arbres. Oh, oh, il regarde le sommet.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Ce matin,
Chez les Yakoutes, on dit que l'arbre monde est la demeure du créateur et de la déesse d'or, le grand Mélèze, Arkoudoukmas, figure l'échelle empruntée par les chamans pour naviguer de notre monde jusqu'aux profondeurs et aux régions célestes. Ancêtre des hommes, il porte chaque destin sur chacune de ses feuilles. On raconte qu'au centre de tout, aux nombriles montagnes du monde, au milieu d'un lac de lait, poussa le plus beau de tous les arbres de la terre. Il était à lui seul une forêt, portée par un tronc unique. Ses 8 branches s'élançaient vers les horizons. Sa cime se perdait dans les étoiles et ses racines plongeaient dans des royaumes souterrains. Il était solitaire depuis des temps sans âge, savourant les fruits des 3 mondes. Un jour, un jeune homme à la tunique immaculée gravit la pente de la montagne, traversa le lac de lait et s'agenouilla au pied de l'arbre avec un grand respect. Esprit de l'arbre forêt, j'ai beaucoup marché pour arriver jusqu'à toi. J'ai posé mes pas dans la fourrure de lapins blancs qui tombent en flocons du ciel. J'ai vu des canards deux par deux, des couples de grands rennes. J'ai observé les écureuils, les renards, les hermines. J'ai vu les ours et les loups. Chacun est pour l'autre un compagnon. Et leurs petits dansent. Ma joie était si grande de venir jusqu'ici, je l'ai brûlée en mesurant combien j'étais seule. Existe-t-il en ce monde un être avec qui je puisse parler et partager une même vigueur? Même le rat musqué a de la tendresse à offrir avec son museau. Fais comme bon te semble, mais bénis-moi et ôte-moi ce lourd fardeau. Le jeune homme passa toute la nuit la tête posée sur l'écorce d'or, mouillant de ses larmes le tronc doré. Au matin, un voile bleuté, telle une nuée, descendit de l'arbre. L'écorce se fendit, sa résine d'or coula, sa sève d'argent transpira, et une forme émergea, une tête, un cou, des seins, un ventre blond. Les yeux brillaient d'une douceur incomparable, les cheveux flottaient au vent, la voix semblait du miel. « Sais-tu d'où tu viens ?» dit-elle. « Non. Si je venais du ciel, j'aurais des ailes ou du givre sur mes cheveux. Si j'étais née là où je marche, j'aurais de l'herbe sur ma peau. Si j'étais sortie de terre, je serais fait de limon. Non, je ne sais pas d'où je viens. Tu appartiens aux trois mondes. Tu es comme cet arbre forêt à qui tu as offert ton eau et ta prière. Tu as la tête qui pointe vers les confins des mondes et les pieds posés sur la terre, un être doté de racines profondes qui puise l'énergie des univers. » Après quoi la jeune fille née de l'arbre lui dit qu'il ne serait plus seul désormais, que premier de sa sorte, il était l'ancêtre de tous les hommes à venir, le premier-né, le fils du roi du ciel et de l'essence de l'arbre forêt. Souple, elle sortit tout entière du tronc du grand mélèze, et ils s'effleurèrent, faisant frémir les feuilles. Quelque part, des myriades d'âmes curieuses et impatientes d'explorer le monde soupirèrent, telles des bourgeons près d'éclore.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
C'est un prodige que ce récit n'ait pas été abattu en même temps que son peuple. C'est un miraculé du temps jadis, quand les sannes du Kalahari faisaient cliqueter leur langue autour d'Aïjib, le grand arbre creux. C'est que les colonisateurs ont tout fait pour nous appauvrir. Ils ont scié les sannes à la racine, ils ont émondé les familles, les clans, brûlé la sagesse et la vie sauvage, la hardiesse, la beauté que traçaient et chantaient les peintres-conteurs. On les a dispersés comme des cendres dans la Voie lactée. La trace de leurs pas a été rendue à la poussière et le souvenir des sorciers danseurs ne tient plus qu'à un fil. Jadis, ils se faisaient oiseaux ou antilopes. Ils appelaient la bête de la pluie et connaissaient les astres qui marchent dans le ciel. Ils pointaient un bâton enflammé vers Sirius pour que l'étoile n'ait pas froid. Ils savaient que la vie est précieuse et que les erreurs peuvent détruire. En ce temps-là, les Sannes habitaient dans Aïjib, le grand arbre creux. Ils étaient nés dedans. Ils avaient été élevés par les animaux et protégeaient l'arbre gardien. En ce temps-là, on les appelait aussi les Joutouassi, le peuple de la vérité. Cagne, le créateur de toutes choses, leur avait offert l'arbre-monde et les animaux qui parlent comme des hommes. Koti, son épouse, avait elle-même mis au monde un faon et conçu des sortilèges antilopes pour pouvoir diviniser et connaître les choses cachées. Les Sannes saluaient l'étoile d'aube et les oiseaux en Khoisan, la langue des vagabonds. Le cœur d'Aïjib était le domaine des anciens Sannes. Leur vie était rythmée par celle de l'arbre, bien à l'abri de la morsure parfois cruelle des saisons. Chaque soir, sur les longues branches basses de leur protecteur, ils chassaient le soleil. Les plus habiles au lasso lançaient des lianes, le ramenaient et le partageaient encore tiède pour le manger. Ils gardaient intacte l'omoplate avant de la lancer vers l'Orient pour qu'ils se reconstituent la nuit, les réchauffent et les nourrissent à nouveau le lendemain. Mais un jour, leur soleil ne chanta pas. La nuit resta la nuit. Porc-épic, girafe et fourmis s'inquiétèrent. Oiseaux et serpents allèrent réveiller Coq, qui se dandina, scrutant l'horizon. Lièvre pensa qu'il fallait prévenir sans tarder les Joutouassi. Alors Perroquet entra dans l'arbre et les réveilla. Constatant que le soleil ne se levait pas, ils comprirent avoir omis de renvoyer l'omoplate vers le levant. Dans la pénombre, un grand conseil se tint en présence de toutes les créatures, animales et humaines. La perte du soleil était celle de la lumière, de la chaleur et de leur nourriture. Mante religieuse regarda vers Antilope, qui espérait qu'Abeille ait une idée, mais Abeille fit comme fourmi et autruche, elle garda le silence. Hyène, à qui l'on ne demandait jamais rien, prit la parole. « Faisons un grand feu pour réchauffer notre morceau de soleil, ranimons-le et réexpédions-le, il finira bien par revenir entier. » Mante, Abeille et Antilope s'insurgèrent contre cette idée, jugeant l'acte insensé. Le feu pouvait embrasser Aïjib. Mais l'assemblée apeurée désirait le retour du soleil. Le géant saurait contenir les flammes. En hâte et sans écouter les cris des trois sages, on fit un grand tas de feuilles et de branchages. On alluma le tout, on apporta l'omoplate pour la réchauffer. Les flammes dansèrent et chauffèrent le morceau éteint. Léchèrent l'écorce filandreuse de l'arbre qui s'enflamma. Les Sannes lancèrent l'omoplate et tentèrent d'éteindre le brasier, mais le creux d'Aïjib était une fournaise. L'arbre-monde brûlait. Nulle branche ne pourrait plus accueillir les porteurs de l'assaut. Le soleil inaccessible ne se laisserait plus manger. Les animaux, face au désastre, perdirent l'usage de la parole. Dans la brousse, les Sannes pleuraient leurs protecteurs. Affamés, perdus, ils confectionnèrent des arcs pour chasser leurs compagnons à quatre pattes et à deux ailes. Ainsi se termina le temps du premier monde. Seule une famille d'oiseaux multicolores s'était réunie dans la fraîcheur du soir pour protéger ce qui n'avait pas brûlé et qui devait être emporté pour l'éternité, l'histoire de l'arbre-monde, pour qu'elle parvienne aux arrière-petits-enfants des mangeurs de soleil qui savaient vivre en paix et se guérir eux-mêmes, pour qu'elle soit révélée aux enfants des incendiaires qui rongent aujourd'hui la terre. Pour que l'arbre monde, même muet, leur parle encore.
One more tune. Rock it down to the sound of the master.
One more. Hear this now.
The sound of Mr. Howie Sandberg.
You know that it's me after. You know that I would be an eye if I was. The time to hesitate is true. There's no time to wallow on the mile. Try no weekend early, and I will never become a favorite fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby.
Rugged inside the hour, 2 o'clock, the sounds of Mr. Horace Ante. Original Chief Raptor of the Wild Bunch crew. Sounds of the massive.
Don't forget the man can't sleep, you are saying on the dance. Little but great talk, great talk, great talk.
À force de vivre au milieu des biches et des bois, le vieux de la nature s'était changé en cerf. Il avait gardé sa tête et sa barbe d'homme, sa coiffure de chêne. Homme, arbre et bête. On finit toujours par ressembler à ceux que l'on aime. Jeune, il avait trouvé la clairière, là où les animaux et les arbres tenaient leurs conseils. C'était la première fois depuis que le monde avait basculé qu'un humain était admis dans le cercle des gardiens. Il avait cheminé entre ville et forêt, essayé d'être pour les uns et les autres, civilisé et sauvage, le germe d'une nouvelle alliance. Si les loups et si les cèdres l'aimaient, beaucoup d'hommes le tenaient pour un naïf qui tournait le dos au progrès. Les sangliers lui avaient appris l'ancien langage. Quand il s'adressait aux hommes, il avait dans la voix le chant du merle et le bruissement de l'eau, de l'ombre et des feuillages. On y devinait le silence du ciel et des grottes, la force pure de la lune et toutes ces choses qui finissent par faire peur à ceux qui se claquent mûrs dans leur maison. Voyant la ville se rapprocher chaque jour, la terre lacérée par des pattes d'acier, il avait fini par ne plus dépasser la lisière des mondes. Il passait de longues heures à scruter les nuages pour déceler les agitations qui mangent la vie. Il savait que beaucoup d'humains souffraient de voir la nature malmenée, mais leur façon de vivre était sans appel. Tandis qu'il cherchait le moyen d'endiguer la peur et de réveiller le chant des hommes, ses pieds, ses mains devinrent sabots, ses bras, ses jambes se couvrirent de peau, ses cheveux se firent brindilles et branches. Sa voix gonfla, sortit de la bouche des arbres et des rochers, la voix des arbres et des pierres qui parlent. La nature n'accuse pas l'homme, elle l'attend. Ce jour-là, un grondement fit vibrer la dernière colline qui séparait les mondes. Il avait redouté cet instant, celui où rien n'arrêterait les mangeurs de vie, ces frères humains qui broyaient les arbres et les nids, souillaient la mer et la montagne, fouillant la terre, jamais rassasiés, sans égard envers la vie sauvage et l'avenir de leurs enfants. Il avait réfléchi à ce moment sans savoir quoi faire. Pourtant, il vit clairement ce qu'il devait oser. De la clairière, il appela longuement toutes les vies qui rampent, courent, poussent et volent. Il rameuta les sources, le vent, les fleurs, les vers et les rossignols. Il exhorta le meilleur de l'homme, fit des élans magnifiques à un long collier. Sa plainte s'éleva, chacun l'entendit. Qu'il fût sapin, écureuil, taupe, biche, enfant ou noisetier. Un long murmure répondit. Faible au début, il s'élargit, bourdonna, fit vibrer l'air de mélodie. L'homme cerf récoltait tous les chants, ceux des arbres et des animaux, des fleurs et des améthystes, des sources, ceux des humains qui s'apaisent et rêvent. Il en composa un bouquet, mélange harmonieux, tissé de milliards de sons. L'homme cerf fit face aux envahisseurs, sa voix s'éleva, grave et douce, donnant à son chant des chants la puissance inouïe d'un conte. Puis elle retomba en pluie sur les conducteurs des montures d'acier, les secouant fortement, bouleversant leur réalité. Les moteurs des machines s'arrêtèrent. Hommes, femmes et enfants descendirent des collines et des engins, stupéfiés. Ils sortaient du long sommeil, découvraient la forêt, les oiseaux, l'herbe et le ciel. Ils s'éveillaient sans retenir leurs larmes ni leurs rires, délivrés. Ils ajoutèrent leur voix. Elles s'élevèrent des bouches assoiffées, effaçant les peurs, libérant des myriades de papillons. Quand ils virent l'homme cerf et des visages humains se dessiner à la cime des arbres, leurs cheveux devinrent brindilles. Leurs mains sabots, leurs bras des ailes. Au loin, leurs maisons furent des nids, leurs villes s'ouvrirent aux étoiles. Le concert avait brisé leurs armures. La forêt s'avança, bras et branches d'arbres et d'hommes s'étreignirent. Renards, tilleuls, enfants jouaient déjà entre eux, formant des mots et créant des poèmes. Ainsi finit ce dernier conte des sages gardiens de la terre. Les oiseaux de la source et le roiseau phénix le conservaient peut-être pour être comptés maintenant. Puissent-ils contribuer à nous réveiller tout à fait? La source coule sur ton cœur comme sur une pierre de la forêt. Et elle va polir ton cœur dans la juste forme des cœurs. Et c'est un fruit vivant que tu vas maintenant porter dans ta poitrine. Et le jus de ce fruit viendra sur tes lèvres. Et d'entre tes lèvres coulera une source où l'on viendra boire.
Tell me, is it true?
À 80 ans, si vous n'êtes ni infirme ni invalide, si vous gardez votre santé, si une bonne marche à pied vous fait encore plaisir et un bon repas avec tous ceux qui l'accompagnent, si vous pouvez dormir sans commencer par prendre une pilule, si les oiseaux et les fleurs, la montagne et la mer continuent à vous inspirer, alors vous êtes le plus fortuné des hommes et, à genoux, matin et soir, vous devriez remercier le Seigneur Tout-Puissant de vous avoir épargné et conservé sa bonté. Quand on est jeune, par le nombre des années, mais déjà las d'esprit, déjà en passe de se changer en automate, cela ne fait peut-être pas de mal de dire à son patron in petto. Cela va de soi. Va te faire enculer, Jules. Je suis mon maître. Mais si vous pouvez siffler à cul-tête, si une paire de fesses accrocheuses ou une adorable paire de nénés peut vous allumer, si vous pouvez tomber amoureux sans relâche, si vous pouvez pardonner à vos parents le crime de vous avoir mis au monde, s'il vous est égal de ne pas savoir où va la vie, s'il vous suffit de prendre chaque jour comme il vient, si vous êtes capable de pardon aussi bien que d'oubli, si vous pouvez vous empêcher de tourner entièrement au vinaigre, à la hargne, à l'amertume et au cynisme, alors mon gars, c'est plus qu'à moitié gagné. Ce sont les petites choses qui comptent. Pas la renommée, ni le succès, ni la fortune. En haut de l'échelle, la place est rare, tandis qu'en bas, on est des foules à tenir ensemble, sans se bousculer et sans personne pour vous emmerder. Surtout, ne croyez pas une seconde que la vie de génie, ce soit la vie en rose. Loin de là. Bénissez-vous de n'être rien du tout. Si vous avez eu une carrière pleine de succès, la fin de vos jours ne sera pas forcément la période la plus heureuse de votre existence. À moins que vous n'ayez appris à avaler votre propre merde. Le succès, vu sous l'angle de ce monde, est une sorte de fléau pour l'écrivain qui a encore quelque chose à dire. À ce stade, où il devrait pouvoir goûter un peu de loisir, il se retrouve plus occupé que jamais. Il est victime de ses admirateurs et des bien intentionnés, de tous ceux qui désirent se servir de son nom. Et c'est dès lors une autre sorte de lutte qu'il faut livrer. Le problème devient de savoir comment garder votre liberté, comment ne faire que ce qui vous plaît. Malgré la connaissance du monde qui vient d'une large expérience, malgré l'acquisition d'une philosophie de tous les jours qui soit viable malgré soi, on se rend compte que les imbéciles sont encore plus idiots qu'avant et les emmerdeurs plus emmerdants. La mort réclame l'un après l'autre vos amis ou les grandes figures que vous respectiez. Plus vous vieillissez, plus vite ils disparaissent. Finalement, vous restez seul debout. Vous voyez vos enfants ou les enfants de vos enfants commettre les mêmes absurdes erreurs, souvent à vous fendre le cœur, celles que vous commettiez à leur âge, et il n'est rien que vous puissiez dire ni faire pour les en empêcher. En vérité, c'est en observant les jeunes que vous finirez par comprendre quelle espèce d'imbécile vous étiez, vous, autrefois, et quel imbécile vous êtes encore probablement. S'il est une chose qui me paraît de plus en plus évidente aujourd'hui, c'est que le caractère foncier des êtres ne change pas avec les années. À de rares exceptions près, les gens ne se développent ni évoluent. Le chêne demeure chêne, le porc porc, et le minus, minus. Loin de les rendre meilleurs, le succès accuse d'habitude leurs fautes ou leurs faiblesses. Le gars qui faisait des étincelles en classe se révèle beaucoup moins brillant une fois lâché dans le monde. Les types que vous détestiez ou méprisiez à l'école, vous les détesterez plus encore le jour où ils seront devenus financiers, hommes d'État ou général à 5 étoiles. La vie nous donne de force quelques leçons. Elle ne nous apprend pas nécessairement à grandir. À première vue, je ne connais guère plus d'une douzaine d'individus qui aient appris la leçon. Et si je leur disais, pour la plupart, ils ne se reconnaîtraient pas sur la liste. Quant au monde en général, non seulement il ne m'a pas l'air meilleur qu'à l'époque de ma 8e année, il a l'air 1000 fois pire. Le grand écrivain Joris Karl Huysmans, l'auteur de « À rebours », résume assez bien cela lorsqu'il dit que le passé lui fait horreur, que le présent est gris et désolé, et l'avenir est l'avenir absolument épouvantable. Fort heureusement, je ne partage pas ce point de vue sinistre. Ne serait-ce que cela, je ne m'intéresse pas à l'avenir. Quant au passé, bon ou mauvais, j'en ai tiré le miel. L'avenir qui me reste, c'est mon passé qui l'a fait. L'avenir du monde, je le laisse aux méditations des philosophes et des visionnaires. La seule chose à laquelle nous ayons vraiment droit, c'est le présent. Mais rares sont ceux d'entre nous qui le vivent jamais. Je ne suis pas plus un pessimiste qu'un optimiste. Pour moi, le monde n'est ni ci, ni ça. Il est tout à la fois, et ce, selon la vision de chacun. À 80 balais, je me juge infiniment plus gai que je ne l'étais à 20 ou 30 ans. Je n'ai décidément pas la moindre envie de retomber en adolescence. La jeunesse est peut-être une splendeur. Elle n'en est pas moins pénible à endurer. De plus, ce que l'on appelle jeunesse n'est pas la jeunesse. À mon avis, cela ressemble plutôt à une vieillesse précoce.
N'atteindront jamais que les frileux. Réguler la cive, quand tu me dis va, je fais un vœu. C'est une langue sur tes longs cheveux. J'ai rêvé que je te reveux. Je reviens, je passe aux aveux. Sure.
Je n'ai jamais appartenu à aucune organisation religieuse, politique ou autre. Je n'ai jamais voté de ma vie. Depuis l'adolescence, je n'ai jamais cessé d'être un anarchiste philosophe. Je suis un exilé volontaire qui se sent partout chez lui, sauf chez lui. Enfant, j'avais beaucoup d'idoles. À présent, j'en ai encore. Être capable de révérer les autres sans leur emboîter nécessairement le pas me paraît capital. Avoir un maître l'est encore plus. Le tout est de savoir comment et où en trouver un. D'habitude, il en est plein au milieu de nous, sans que nous parvenions à le reconnaître. D'un autre côté, j'ai découvert que très souvent, il y a beaucoup plus à apprendre d'un enfant que d'un mentor attitré. Je pense que l'instructeur avec L majuscule est à placer au même rang que le sage et que le visionnaire. Pour notre malheur, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la reproduction d'une telle race d'animaux. Ce que l'on nomme éducation n'est pour moi que totale absurdité, novice au développement. Malgré tous les bouleversements sociaux et politiques que nous avons traversés et que nous traverserons, les méthodes d'éducation autorisées dans tout le monde civilisé demeurent, du moins à mes yeux, archaïques et radotantes. Elles contribuaient à perpétuer les maux qui font de nous des infirmes. William Blake disait « Il y a plus de sagesse dans les tigres du courroux que dans les mules de l'instruction. » En classe, je n'ai rien appris qui vaille, même aujourd'hui. Je ne me crois pas capable de passer un certificat d'études en aucune matière. J'ai appris beaucoup plus avec les imbéciles et les rien du tout qu'avec les professeurs de ceci ou de cela. L'instructeur, c'est la vie, non le ministère de l'Éducation nationale. Je rajoute aussi, je me fiche de savoir qui a battu tel ou tel record. Les héros du baseball, du rugby, du basketball, je les connais à peine. Je n'aime pas les jeux de compétition. Je pense que l'on doit jouer, non pour gagner, mais pour le plaisir du jeu, quel qu'il soit. Je préfère l'exercice que l'on prend en s'amusant à toutes les gymnastiques du monde. J'aime mieux la pratique individuelle que le travail d'équipe. En ce qui concerne le sport, nager, monter à bicyclette, me promener dans les bois ou faire une partie de ping-pong, voilà qui contente tout mon besoin d'exercice. Je ne crois pas plus aux tractions qu'aux haltères ou à la nécessité de la musculation. Je ne vois pas non plus ce que des muscles me serviraient de telle ou telle façon, sachant que j'en ai pas besoin pour vivre dans la nature. J'estime que l'on devrait enseigner très tôt l'art aussi de la self-défense et sans aller au-delà de son usage spécifique. Et si jamais la guerre devait être à l'ordre du jour dans quelques générations à venir, alors il faudrait cesser d'envoyer les gosses au catéchisme pour leur apprendre en revanche à devenir expert dans l'art de tuer. Quelle connerie! Mais quelle connerie! Je n'ai aucune foi dans les aliments de santé, ni dans les régimes. Il est probable que toute ma vie, j'ai mangé uniquement ce qu'il me fallait, ce que je ressentais, et que tout cela m'a réussi. Je mange pour le plaisir de la chair. Tout ce que je le fais d'abord pour le plaisir. Fais absolument ce que tu veux, mais tire-en de la joie. Halloween comes early,
trick or treat in Gringoland. But you don't look so happy. Yesterday's candle turned to sand. Why don't you take my hand? Oh, strangers, when we leave, I see a strange light in the air. Is it a bonfire from the fair? Is it the sign that man has worn? Fairy tales. I was born in a barn on a ship with no sails. Oh, strangers, when we leave. Oh, strangers, when we leave. Oh, strangers, when we leave.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu des textes d'Henry Miller, extraits de Virage à 80, et des textes des Contes des Sages Gardiens de la Terre de Patrick Fishman.
Vous avez entendu une chanson inédite d'Alain Bachung, J'ai rêvé que je te reveux, et vous avez entendu une superbe version de Jimmy Cliff qui chante la version anglaise de Vertige de l'amour. Évidemment, vous avez entendu des passages d'Henry Miller. Henry Miller, qui est un écrivain libertaire, qui est un grand représentant de la liberté de penser, la liberté d'être, et qui, en son temps, a créé de gros scandales, puisque aux États-Unis, il a été quand même interdit jusqu'en 1969.
Vous avez entendu une chouette, un coucou, un loup. Vous avez entendu des chants d'oiseaux, un tambour chamanique. Vous avez entendu Dominique A, François Béranger, Barbara, Natacha Atlas, les Stranglers, Massive Attack et les Violentes Femmes.
Et vous avez entendu aussi la voix de Nathalie Vautier qui nous a proposé des contes absolument magnifiques et très très si bien lus. Merci beaucoup.
Merci James Fontaine.
À la technique, Christophe Becquereau, qu'on remercie. Nous fêtons aujourd'hui nos 3 années d'existence, donc vous pouvez aller réécouter les podcasts depuis le 1er janvier 2016. C'est une aventure qui continue et rendez-vous donc en 2019, le dernier jeudi du mois, qui tombera exactement
le 31 janvier.
D'ici là, bon boudin et surtout, pensez à vous.
Laissez-vous bercer, vous êtes sur Fréquence Mistral.
I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I'm no one nor the other. And I'm sorry if I disappoint you. So and I'll never know where to stand when all your hell breaks loose. And I haven't yet said a word that retaliation troops are on their way. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, oh, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you. So you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I'm no one nor the other. Sorry if I disappoint you. Honey, you're so quick to skip from praise to slander.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéré.
Samedi, à partir de 15h10 TU.
RFI.
Il est 19h en temps universel, 20h ici à Paris.